Bonsoir, bienvenue dans Fréquence Droit. Fréquence Droit, c'est le rendez-vous mensuel de la Ligue des Droits de l'Homme, section des 10e et 11e arrondissements de Paris. Municipal oblige, Fréquence Droit a changé quelque peu de nature pour 4 numéros. La parole est donnée aux organisations citoyennes, celles qui s'inquiètent de la propagation d'un discours identitaire et la montée de l'extrême droite. Au micro, Boudjema Daman et Claude Cyril. Bonsoir Boudjema.
Bonsoir.
Nous sommes ensemble pour un peu moins d'une heure. Les données du problème, au moment où nous parlons, nous sommes le 17 mars 2026, entre les deux tours des élections municipales. Un taux de participation plutôt inquiétant, passé sous la barre des 60%. Il est le plus bas jamais enregistré sous la Ve République pour une élection municipale. Deuxième donnée, le macronisme, qui est en phase d'effacement, ce qu'on appelle le bloc central n'a aucune raison de pavoiser. Entre deux tours compliqués à gauche, le Parti socialiste a affirmé qu'il ne voulait pas d'un accord national de désistement avec LFI, mais il aura besoin de lui pour l'emporter dans de nombreuses villes. Enfin, il y a l'extrême droite. Dès le premier tour, 27 maires d'extrême droite sont déjà élus, 18 pour le Rassemblement national, auxquels s'ajoutent des maires proches ou classés divers extrême droite. Deuxième chiffre, plus de 50 villes où l'extrême droite arrive en tête, certaines pourraient basculer d'ici dimanche prochain. Depuis 20 ans donc, et singulièrement depuis 2022, l'extrême droite est en croissance, à tel point que certains observateurs estiment et peut-être espèrent que la victoire de l'extrême droite est aujourd'hui irrésistible. Pour conjurer cette perspective, des organisations se sont créées, organisations citoyennes, des organisations déterminées à se battre sur le terrain au plus près des citoyens. Camille Pétron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet à 1001 territoires pour la Fraternité. Alors dites-nous un peu plus sur cette organisation citoyenne.
Merci Claude. Donc 1001 territoires pour la Fraternité est né au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc on est en juin-juillet 2024. Et donc autour de la table, les organisations dites de la société civile, les organisations syndicales veulent faire barrage à l'arrivée de l'extrême droite, en tout cas celle qui était promise. L'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et donc ces organisations syndicales et associatives, une fois d'avoir réussi ce combat, ce pari, que de réussir à faire barrage, ils se sont dit, bon, ok, on a eu chaud, mais il faut absolument qu'on continue. Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer le travail ensemble. Donc elles se sont mises autour de la table. Quand je dis elles, c'est le mouvement associatif, c'est la Ligue des droits de l'homme, justement, c'est France Nature Environnement, la CIMAD, AnimaFac, les mouvements d'éducation populaire avec la Ligue de l'enseignement notamment, et la CGT et l'UNSA. Et donc ils ont créé 1001 territoires pour la fraternité. Aujourd'hui, on a 41 signataires nationaux des grosses organisations, donc des têtes de réseau nationales, qui sont autour de la table. Et notre objectif, c'est de pouvoir mener la bataille culturelle au plus près des territoires. De pouvoir mettre en place des espaces de rencontres, d'échanges, de débats citoyens, des activités culturelles, artistiques, qui permettent finalement de vivre ensemble, de parler ensemble dans un contexte non polarisé, et de pouvoir se dire... On est capable de vivre ensemble, donc on est capable aussi d'avoir des valeurs de fraternité, de solidarité, de paix sociale. Et donc, c'est celle-là qu'il faut défendre. Et donc, demain, on sera, je finis là-dessus.
Non, vas-y, termine.
On sera la plus grande communauté de citoyens et de citoyennes engagées de France pour mener la bataille culturelle et influencer 2027.
Et cela, nous avons 55 minutes pour en parler. Je dis bienvenue à Princy Borgne, qui représente dans cette émission la voix de Paris Collectif. Alors, Princy, en un mot ou deux, présentez-nous Paris Collectif.
Je peux me présenter aussi. Donc moi, je suis Princy, effectivement, porte-parole de Paris Collectif. Donc Paris Collectif, en quelques mots, c'est un mouvement citoyen d'émancipation populaire. J'expliquerai après le pourquoi cette dimension d'émancipation populaire. Et ce mouvement s'est créé en septembre 2023. À l'époque, on était une petite poignée de citoyens venant... d'horizons très, très différents. Et on s'est retrouvés autour d'un constat, celui d'une crise de confiance très forte entre les habitants et les représentants politiques. Et on partageait aussi cette analyse que cette crise de confiance, elle avait des conséquences graves, puisqu'elle amenait une part croissante de la population à renoncer à toute forme d'expression politique. Et renoncer à l'expression politique, comme par exemple le geste du vote, c'est laisser un boulevard pour justement des valeurs de droite, d'extrême droite, et puis des dirigeants qui sont déterminés à prendre des décisions qui ne servent pas les habitants et l'intérêt général. Et donc, face à ce constat, on s'est dit qu'il était plus que temps d'imaginer une démarche qui puisse redonner du sens à la politique. Et donc, on a imaginé un processus en trois temps. Premier temps, celui d'un diagnostic citoyen. Donc, on a été à la rencontre sous différentes modalités individuelles, collectives, de près de 1600 personnes la première année pour les entendre nous parler de leur ville, de leurs problématiques au quotidien. Et ça a permis, à l'issue de rencontres collectives et d'entretiens individuels, de faire émerger une douzaine de grandes priorités sur la ville. La deuxième année, on est passé dans la phase 2, la phase des propositions. L'idée, c'était de retrouver ces habitants et puis aussi ces acteurs du territoire qu'on avait déjà pu auditionner pendant la première partie, pour cette fois-ci les mettre en dialogue avec aussi des acteurs politiques locaux et par là faire émerger des propositions pour répondre aux différentes problématiques identifiées. Et en tout, c'est 260 propositions qui ont pu émerger, sachant que ces propositions, elles ont pu être consolidées et stabilisées aussi grâce à une plateforme programmatique qu'on a mis en place en septembre 2025 et qui visait à identifier les propositions qui étaient communes à l'ensemble des forces politiques de gauche. Et ça me permet de basculer sur la troisième phase qui a structuré le processus, celui de la reprise par les décideurs politiques. En effet, pour pas que ces propositions et toute cette énergie citoyenne restent lettre morte, on a été très soucieux d'entretenir un dialogue continu avec les partis politiques de gauche pour que dans la campagne municipale notamment, ces propositions parisiennes faites par les habitants puissent trouver d'abord toute leur place dans les programmes de campagne, puis ensuite, on l'espère, si la gauche l'emporte, qu'elle puisse irriguer la future mandature.
Budget, madame Anne.
Simplement pour préciser que notre première émission, nous vous avions invité, Paris Collectif. Alors, ce n'était pas toi, Princy, c'était Jean-Christophe qui vous représentait. Et tu as dit que tu te présenterais personnellement. Je tiens simplement à dire que tu es l'une des figures de proue avec Jean-Christophe et d'autres, Jude ici présent, de ce mouvement qui, effectivement, a abattu un travail considérable. Et vous l'avez fait. Tu ne l'as pas précisé, avec d'autres associations maintenant avec qui vous agissez, qui sont les Victoires Populaires et Démocratiser la Politique.
Oui, complètement, un rapide mot là-dessus. Notamment dans cette perspective de peser dans le débat politique et dans la fabrique des politiques publiques, ça a été hyper important de décloisonner les luttes, on y est très attaché, et de faire converger toutes les forces de la société civile pour faire face aux représentants politiques qui, malheureusement, ont un peu tendance à s'enfermer dans une culture assez descendante et qui laisse peu de place à la parole citoyenne. Et on sait que les politiques derrière eux ont aussi le poids des institutions, les moyens financiers qui leur permettent de peser davantage. Donc ça, l'équation est simple. Hein. Un citoyen face à un politique, malheureusement, la balance n'est pas équilibrée. D'où l'importance d'être une masse d'organisations et de citoyens pour faire face aux politiques.
Camille Pétron, chef de projet à 1001 Territoires, et Princy Borgne de Paris Collectif sont donc nos invités. Nous sommes d'accord pour estimer que la victoire ou la défaite de l'extrême droite se joue avant les urnes. Autrement dit, la bataille pour 2027 commence maintenant. Première question, premier thème que je voudrais qu'on évoque, le réinvestissement du champ du récit, parce que, Camille Pétron, vous nous dites que la gauche a déserté le champ du récit.
Oui, je pense qu'en effet, merci pour la question. Aujourd'hui, les programmes de gauche, et j'ai envie de dire plutôt les politiques en général, ont complètement déshumanisé la politique en elle-même. On ne travaille plus suffisamment sur ce qui fait joie, ce qui fait colère, ce qui fait peine chez les individus. Aujourd'hui, on est souvent face à des programmes qui sont très technocratiques. Et ça, l'extrême droite, je trouve qu'elle a bien compris. Elle sait capitaliser sur notamment le domaine de la colère et des peurs. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, si on veut rentrer en résistance, c'est réenchanter la politique, recréer du réenchantement et du désir. Et c'est pour ça qu'à 1001 Territoires notamment, on parle énormément de discours politiques et du monde dans lequel on a envie de vivre tous ensemble et non pas plutôt d'une société du contre, du rejet et du repli sur soi.
Mais concrètement, Camille, réenchanter la politique, c'est des slogans qu'on a déjà entendus. Concrètement, comment ça se traduit à travers les différentes actions que vous proposez ? Tu parlais effectivement de liens, c'est quelque chose qui est apparu d'ailleurs dans le questionnement de Paris Collectif. Hein. Les gens sont en demande de liens, en demande d'échanges pour Mille et un Territoires. Qu'est-ce que ça donne ?
Avant de parler vraiment de Mille et un Territoires, il y a une enquête que j'aime énormément, c'est l'enquête de la désertification des PMU dans les villages et en quoi est-ce que ça a recréé de l'isolement et que ça fait monter, le vote extrême droite. Et je trouve que cette étude, elle est vraiment parlante. Si Mille et un Territoires a bien un objectif, c'est justement de créer ces espaces de rencontre où les personnes, elles vont pouvoir sortir un peu de leur zone de confort, aller expérimenter des nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, expérimenter du débat démocratique, du débat d'idées, dans un cadre qui est respectueux. Et ça, c'est éminemment important. Et c'est pour ça que Mille et un Territoires, il est porté vraiment par des acteurs de terrain même. Ça va vraiment du mouvement d'éducation populaire très local à la petite association de quartier qui crée des espaces de convivialité où, si on est capable de manger ensemble, en fait, on est capable de vivre ensemble et d'imaginer un monde commun ensemble. C'est aussi propre même de la culture et de tout le domaine de l'éducation populaire hein, que de permettre de s'émanciper d'une pensée qui est devenue dominante et qui viendrait nous expliquer que le monde il est tari de peur, il est pétri de domination, etc. Et bien justement, Mille et un Territoires pour la fraternité, comme les actions de l'éducation populaire qui se tissent partout en local, ça permet justement de pouvoir aux individus recréer du collectif.
Réenchanter la politique, Princy Borgne, du côté de Paris Collectif, comment ça se présente ?
Non mais je partage complètement ce que disait Camille sur le besoin de réenchanter et puis même j'irai plus loin. À ce stade, c'est même tout simplement redonner du sens à la politique. Parce qu'effectivement, à force de s'enfermer derrière des chiffres, des dispositifs très techniques, des éléments de langage très savants, il y a une difficulté à livrer un discours politique qui soit tourné vers ce qui parle aux gens, à savoir leurs besoins premiers éprouvés au quotidien. Moi, il y a un exemple que je voulais donner parce que je trouvais que c'était assez criant du décalage qu'il y a entre l'analyse par les chiffres et la réalité ressentie. Moi, je me souviens quand Emmanuel Macron, en 2021, disait « Ah bah ça y est, super, les chiffres du chômage n'ont jamais été aussi bas depuis 2008 ». D'accord, c'est super, mais ça venait dissimuler toute une réalité d'emplois à durée déterminée, de turnover, d'emplois qu'on décide d'accepter mais qui sont complètement en deçà des compétences qu'on a réussi à acquérir grâce à son parcours universitaire. Donc on voit bien que les chiffres ne parlent à personne et ne sont absolument pas en résonance avec un ressenti vraiment sensible des choses. Effectivement, nous, on constate aussi que les habitants le ressentent également, puisque quand on a fait nos entretiens avec la population parisienne, on avait environ 24% des habitants qui nous disaient qu'il y avait un besoin d'être de nouveau associés, impliqués dans la vie politique, parce que celle-ci est complètement déconnectée et hors sol par rapport aux réalités. Et on avait 17% qui nous disaient aujourd'hui le dialogue entre les représentants politiques et les habitants est complètement rompu. On ne voit ces élus qu'au moment des campagnes électorales. Et forcément, au global, la conséquence était que toutes les personnes qui nous parlaient de démocratie nous en ont systématiquement parlé de façon extrêmement négative. Et puis, autre résultat criant, moi j'aime beaucoup, on parlait d'enquête tout à l'heure, l'enquête qui avait été faite par le CEVIPOF début 2025 et qui rappelait qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance majeure. Plus de la moitié de la population française n'a plus confiance en cette cohorte de représentants politiques. Le seul élu qui semble résister un peu à cette défiance, c'est l'élu ultra-local dans les municipalités. Donc on a besoin de bouger et on a besoin de penser les politiques publiques non plus en termes d'offres, mais en termes de dialogue avec les besoins exprimés sur le terrain.
Camille Pétron, réenchanter la politique avec en face de soi des médias qui sont plutôt anxiogènes, qui se battent dans le sens contraire de ce que vous proposez, c'est difficile, non ?
Je dirais pas que c'est difficile, il y a des outils qui sont formidables, en tout cas qui ont été développées sur les territoires. Là, par exemple, je voudrais vous parler des soupes mille et une fois solidaires. Donc, on est sur la place du village, enfin du village de la ville. On est à Alençon, un peu avant les fêtes. Donc, la Ligue des droits de l'homme avec la Ligue de l'enseignement et la CGT mettent en place un stand en plein dans la ville et offrent des soupes aux gens, aux passants. Donc, les fameux gens qui n'ont rien demandé, les non convaincus, les silencieux, les silenciers, etc. Et une fois que du coup on a notre petit bol de soupe dans les mains, bah, qu'est-ce qu'on fait ensemble? L'idée, c'est pas juste de vous offrir une soupe, c'est aussi de vous faire jouer un petit jeu sur les représentations qu'on peut avoir sur les migrations. Et donc du coup, c'est un quiz qui permet d'aller complètement débunker le discours qu'on veut bien nous faire croire sur le nombre d'OQTF, sur d'où vient l'immigration en France, etc., etc. Et donc ça permet finalement, au fur et à mesure, à travers le support de la convivialité et de la relation humaine, d'aller casser des représentations justement qu'on nous sert à table quand on regarde ces news en mangeant.
On ne pas la citer.
Pardon, faut aussi citer BFM et...
débunker pour déconstruire. Hein. On est bien d'accord au niveau de, effectivement, des idées reçues. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez également constaté, je crois, à Paris Collectif, au niveau d'un certain nombre de thématiques qui sont apparues tout en haut des revendications et d'autres dont on parle effectivement, alors là, abondamment dans les médias, qui n'apparaissaient ou même pas, ou très bas dans les revendications. Qu'est-ce que tu peux en dire, Princy?
Peut-être que dire que ce qui nous a permis de faire ce constat, c'est le changement de posture. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti du principe qu'il y avait des sachants et des usagers. Donc on n'a pas prédéfini les sujets d'intérêt sur lesquels on allait faire discuter les gens. Et on a été très attentif à laisser les gens nous parler vraiment des sujets qui les touchaient et avec leurs mots, leurs éléments de langage. Donc on a été très attachés, quand on a retranscrit le diagnostic et les propositions, à garder les expressions, les termes qui étaient employés par les habitants eux-mêmes. Par exemple, ça nous a permis de voir que, contrairement à ce que certaines chaînes, dont on ne citera pas le nom, nous répètent, l'écologie, ça n'est pas que l'affaire des bobos. On a énormément de personnes en quartier populaire qui nous ont dit que pour eux, il y avait urgence à ramener de la pleine terre, ramener de la nature, parce que l'été, bah, ils vivent dans du béton, que c'est des saunas vivants qui sont en souffrance dans leur bâtiment, qu'à l'inverse, l'hiver, ils souffrent tout autant parce qu'on a des passoires thermiques. Et tout ça nous permet de constater que oui, on a une population dans les quartiers populaires qui est aux avant-gardes, qui est vraiment au premier rang de cette question de l'écologie, et qu'elle en a en plus tout à fait conscience. Donc oui, je pense que la réponse que nous on propose pour redonner du sens et réenchanter la politique, c'est de mettre les citoyens et les citoyennes à l'œuvre en leur permettant d'être co-auteurs du récit politique.
Camille Pétron et Princy Born sont nos invités. Vous êtes dans Fréquence Droit sur Aligre FM.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
J'ai un peu discuté politique avec ma grand-mère. Pour lui enlever le droit de vote. Elle confond Miss France et le gouvernement. Personne lit aucun programme, tout le monde débat quand même. Y'a peu de chances qu'on s'en sorte. Je dis ça, je vote pas, je cherche pas de logique là-dedans. La Marseillaise et la drill parlent de tuer des gens. Ils disent qu'on peut plus rien dire et disent la merde tout le temps. Quand je t'ai fait, tout le monde faisait semblant de travailler. On tuait le temps à dire du mal des autres employés. T'es foutu, t'avais juste à faire une grande école. Nos pères aiment que les bonnes affaires et les bagnoles. Tous les faits divers sont des craquages aux alcool. C'est ce qu'on préfère, lève ton verre. À la France. À la 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 France. À la 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 la. À la France. À la 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 France. À la France. À la 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 France. À la 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 la.
Aurel San, ah, la France, c'est le choix de Camille Pétron de Mille et un territoires. pour la fraternité. Pourquoi Orelsan ? Pourquoi cette chanson, Camille ?
Bon, déjà parce que j'aime beaucoup le rap. Mais c'est les paroles de cette chanson, elles me font rire, et notamment les premiers propos qu'il tient au début en disant « J'ai parlé politique avec ma grand-mère, faudrait lui interdire le droit de vote. » Je trouve que c'est symptomatique de la société dans laquelle on vit aujourd'hui et qu'il faut absolument qu'à travers nos actions, que ce soit les actions qui sont portées par Paris Collectif, mais aussi, bien entendu, par Mille et un Territoire, de retrouver ce dialogue. Aujourd'hui, quand on est... Enfin, beaucoup, je me rends compte, quand on est face à une personne qui ne pense pas les mêmes idées politiques que nous, bon, bah, tout de suite, on va la traiter de facho, etc. Et en fait, le discours est extrêmement polarisé, est extrêmement crispé, tendu. Et il faut absolument qu'on arrive à reparler ensemble. Et ça, je voudrais faire un clin d'œil, du coup, au superbe bouquin qu'a écrit Lumière Laprès, ces gens-là, où c'est presque un guide de conversation. Il faut vraiment qu'on arrive à retourner vers les autres. Et justement, les personnes qui, aujourd'hui, ont envie de voter pour des partis d'extrême droite, il suffit simplement de les écouter, d'écouter leur peine. On en revient justement à cette notion de réenchantement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes en colère, que vous êtes triste, et en fait, de trouver des solutions ensemble, des solutions qui ne sont pas, du coup, dans le repli sur soi et dans la haine de l'autre, et justement, des solutions qui sont dans le collectif. Donc, cette chanson, je l'aime bien parce que j'aime la critiquer.
On retrouvera Orelsan, parce que moi, j'aime bien aussi à la fin de cette émission. Mais parlons valeurs, Princy Borgne, La bataille des valeurs est importante. Je pense qu'il ne suffit pas de dire liberté, égalité, fraternité pour combattre les idées du Front National. Donc comment les choses peuvent-elles se dire, s'articuler ? Quel est le message que l'on peut adresser à ceux qui doutent ?
Bah, peut-être qu'il est temps justement d'essayer d'adresser des messages. Effectivement, à nous, à Paris Collectif, on a choisi de quitter la posture prescriptive pour aller plutôt sur le terrain du dialogue. Et donc, toutes les propositions qui ont réussi à émerger, elles ont émergé parce que dès le départ, on a été dans le sens de la dialectique. On a utilisé des grilles d'entretien qu'on dit semi-directives pour permettre aux gens déjà de nous livrer des constats bruts, et puis ensuite, par une espèce de maïeutique, de mise en dialogue, monter en généralité pour établir des constats partagés, et puis aussi ensemble, comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre, et des fois quitter des postures effectivement qui sont dans le rejet de l'autre, de ce qui nous est différent, parce que finalement il y a quelque chose d'arrangeant à se dire que le coupable de ma misère, c'est celui qui ne me ressemble pas. Mais en fait, quand on prend le temps par le dialogue de déconstruire les images d'Épinal et de comprendre pourquoi on est aujourd'hui dans cette situation et quelles pourraient être les bonnes propositions, les personnes qui au début nous tenaient des discours limite haineux finissent par se dire « Ah oui, peut-être qu'en fait, le problème est ailleurs. »
Parlez-nous de ces grilles d'entretien semi-directives. Ça se présente comment ? Qu'est-ce qu'on lit qu'on peut lire ?
Ces grilles d'entretien semi-directives, elles ont pour but d'amener les personnes à nous parler de leur vision, mais en partant d'elles-mêmes. Donc, on commence par leur demander de nous parler d'elles. Qui êtes-vous ? Depuis quand est-ce que vous habitez à Paris ? Si vous aviez vu votre parcours sur le territoire à nous décrire cette ville, qu'est-ce que vous nous en diriez ? Ok, d'accord. Et alors, vous nous avez dit, par exemple, qu'à Paris, le sujet principal, c'était le logement et la propreté. Comment vous l'expliquez précisément ? Comment vous dites que la vie est très chère et que c'est impossible de se loger ? Est-ce que vous avez des clés d'explication ? Et donc voilà, de fil en aiguille, à partir de vraiment une attention portée à l'individu en tant que personne et en tant qu'être sensible, ça je crois que c'est un sujet qu'on doit aussi aborder, la sensibilité, on parvient à avoir des propos qui sont rationnels, réfléchis, et puis une forme d'expertise vraiment à part entière.
Princy Borgne disait qu'il ne fallait pas tenir des discours prescripteurs à ceux à qui on s'adresse. Si je comprends bien, l'essentiel, c'est de ne pas culpabiliser les gens, leur reprocher de douter. C'est ça, Camille Pétron ?
Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un vrai choix qu'on a fait aussi à Mille et un Territoire pour la Fraternité, d'avoir une communication qui ne soit pas contre le Rassemblement National ou les extrêmes droites. On est bien pour défendre la fraternité, les solidarités, la cohésion sociale. Et je pense que c'est hyper important. D'une part, ce serait contre-productif parce que ça veut dire que de fait, on discrimine les électeurs de l'extrême droite et donc du coup, on se ferme d'eux. Et donc voilà, on n'atteint pas nos objectifs que de retrouver un terreau solidaire et fraternel en France qui respecterait le triptyque républicain. D'une part, donc en effet, il n'y a pas de culpabilisation, il n'y a pas de déclassement aussi de l'électeur. Enfin, il y a aussi un superbe bouquin que je recommande qui s'appelle Ascendant Beauf de Rose Lamy qui évoque ça justement. On aurait tendance à tout de suite classer les électeurs RN comme des personnes de QI moins bon que le nôtre.
Comme des beaufs, quoi.
Voilà, exactement. Et donc, ça, c'est complètement contre-productif. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça n'a pas fait ses preuves. Et que c'est justement à travers l'expérience collective. Tout à l'heure, on parlera peut-être plus précisément de l'éducation populaire. Mais je pense vraiment qu'elle a, elle, en tout cas, tout son rôle à jouer si on leur donne ces lettres de noblesse.
Boudjé Madaman.
En vous écoutant, on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe au niveau national et en particulier entre les partis. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette polarisation que vous décrivez par rapport à l'extrême droite, par rapport au Rassemblement national, elle s'étend y compris au sein de partis qui théoriquement devraient être alliés. Je pense à ce qui se passe à gauche et en particulier donc aux résultats qui en a découlé sur Paris. Et donc la question que je me pose en vous écoutant, c'est que cette polarisation poussée à l'excès au niveau national, est-ce que vous la retrouvez sur le terrain au niveau des personnes lorsque vous êtes en contact avec elles? Alors, ou Camille, ou peut-être Princy d'abord et Camille ensuite.
Alors, oui, mais je rebondis juste sur une chose qui me semble importante. Il y a ne pas culpabiliser, mais il y a aussi et surtout considérer les individus. Effectivement, ça me permet de faire le lien avec la question. Je trouve qu'effectivement, il y a une espèce de radicalisation qui s'observe parmi la population, mais de radicalisation pas dans le sens, dans le sens où les gens sont de moins en moins enclins à dialoguer et à tenir compte de la position de l'autre et de la différence de l'autre. Mais pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes, en tant qu'individus, ne sont pas considérés. On sort de décennies d'exercice du pouvoir où on a abordé les citoyens comme des sujets, littéralement, à qui on devait expliquer quel était le bon sens des choses, comment on devait agir pour leur plus grand bien.
Et quand ils s'exprimaient, d'ailleurs, des fois, je pense à 95, on ne tenait pas compte de leur avis.
Bien sûr. Démocratique. Et donc forcément, si moi-même en tant qu'individu, je ne suis pas considérée, au nom de quoi et pourquoi je devrais faire mieux et prêter de l'attention à mon voisin, cette personne qui vient d'un pays qui n'est pas le mien. Enfin, c'est logique, c'est absolument cohérent. Donc la radicalité, on l'observe, elle est aussi très liée à, je crois, la souffrance sociale qui se diffuse. Et puis, on parlait tout à l'heure de la question du rassemblement. J'en profite aussi pour répondre aux choses là qu'on voit ici et là sur le rassemblement à tout prix. Et ça, je pense qu'on peut faire le parallèle aussi sur la cohésion à tout prix. À aucun moment, je crois qu'aucun citoyen ou organisation de la société civile n'a appelé à un rassemblement à tout prix. En revanche, on a tous appelé à ce qu'il puisse y avoir du dialogue sur le fond, pour justement quitter cette logique de posture sur lesquelles on reste campé. Et malheureusement, le paysage politique aujourd'hui ne montre pas vraiment l'exemple à la population, puisque alors qu'on le sait, on a des projets politiques au sein de la gauche qui se ressemblent et qui laissent place à des dénominateurs communs très forts. Chacun décide de rester braqué, campé dans son couloir de nage parce qu'on est davantage intéressé par le rapport de force et la construction de trajectoires d'accession au pouvoir sur le long terme plutôt qu'intéressé par la construction d'un projet social, économique, écologique pour l'avenir du territoire. Et je trouve ça très déplorable.
Camille Pétron, on retrouve dans la documentation de Mille et un territoires la notion d'éducation populaire. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors Aujourd'hui, c'est un terme qui est un peu ringardisé, tristement. Moi, je suis un pur produit de l'éducation populaire et j'en suis une militante chevronnée. Malheureusement, on est souvent passé aujourd'hui d'une éducation populaire qui est délégataire des politiques publiques et non pas aujourd'hui sa vraie force initiale qui est l'émancipation citoyenne. Et à Mille et un territoire, donc, quand on met en place une action, un concert, une exposition, une pièce de théâtre, etc., c'est pas juste de la consommation culturelle, c'est de la vraie créativité populaire au service d'un projet de société émancipateur. Et quand les individus traversent l'éducation populaire, participent à des expériences dans le cadre de l'éducation populaire, ils sont amenés à penser par eux-mêmes, à avoir une vraie citoyenneté éclairée. Et justement, je pense que pour sortir de cette polarisation un petit peu, c'est elle qui permet justement d'aller vers de l'enseignement un peu révolutionnaire, dans des modes de vie autogérés. C'est l'éducation populaire quand même qui a permis l'émergence de mouvements citoyens comme ça. Et aujourd'hui, c'est quand je dis qu'il faut lui redonner ses lettres de noblesse pour pouvoir dépolariser le discours social, c'est bien justement utiliser les outils de l'éducation populaire pour redonner à la citoyenneté tout son pouvoir d'agir, aux citoyens en fait, d'avoir une vraie reconnaissance, une existence dans un collectif et être reconnu comme étant un citoyen à part entière avec une liberté de parole et de conscience, quoi.
Donnez-nous un exemple précis d'initiatives d'éducation populaire qui pourraient nous permettre de voir de quoi il s'agit précisément.
Alors les exemples, ils sont nombreux, surtout que là, on a dû, depuis que Mille et un territoire existe, on a cartographié plus de 150 initiatives sur toute la France qui, je trouve, relèvent toutes de l'éducation populaire. On pourra avoir un débat entre nous, mais en tout cas, moi, c'est la définition que j'en fais. Des exemples précis, on va avoir des théâtres forums avec une problématique qui est énoncée sur scène avec des comédiens et puis donc du coup, le public qui est amené du coup à interagir avec la scène, de donner son point de vue et d'en débattre. Et à chaque fois, dans un cadre qui est clairement défini initialement. On a aussi des conférences gesticulées qui permettent aussi d'aborder des thématiques citoyennes.
Conférences gesticulées, ça c'est nouveau pour moi.
C'est un outil qui est absolument merveilleux, qui mène en fait le théâtre et la conférence et le débat d'idées. On a forcément des projections citoyennes qui ensuite sont animées par des experts, par des militants, etc. selon les thématiques qui sont abordées dans les films. Et puis on a des vrais espaces de rencontre, parfois simplement le banquet citoyen, la fête de quartier, c'est aussi pour moi une manière de lutter contre le repli sur soi et l'enfermement, l'isolement, parce qu'on va aller manger avec son voisin et en fait c'est ça, c'est la notion de refaire village aussi. Aujourd'hui, on a besoin de retourner discuter avec sa commerçante, avec son voisin, avec son club de rugby. Pourquoi on a besoin de le faire? Parce que finalement, on est obligé d'être poli dans le cadre civil dans lequel on est. On est obligé d'avoir un argumentaire qui soit courtois. Et du coup, ça nous pousse aussi des fois à nous bousculer nos représentations, écouter celles des autres et d'avoir un débat qui soit apaisé. Il faut retrouver l'échelle du village.
Bougez, madame Anne.
Et n'ont pas créé d'ailleurs un permis de voter pour la grand-mère d'Aurel San. Donc, c'est effectivement plutôt la combattre. Non, ce que je voulais dire au niveau de l'éducation populaire, effectivement, c'est... Elle n'a plus à faire ses preuves, en quelque sorte, puisqu'on voit bien qu'à travers les comités d'entreprise, à travers des syndicats, à travers les associations, à travers un certain nombre de... Et quels que soient les domaines, cette éducation populaire existe et s'est développée. Son risque aujourd'hui, c'est effectivement d'être marchandisé, voire d'être sanctionné quand vous avez l'une et l'autre, au-delà de ces objectifs, aborder la question de la sensibilité en souhaitant effectivement développer cet aspect-là. Et justement, et quand je l'entends dans vos bouches, je pense à réhumaniser en quelque sorte les relations que nous avons entre nous. Qu'est-ce que vous pourriez en dire, Princy d'abord, Camille ensuite?
Oui, j'évoquais le sujet de la sensibilité tout à l'heure parce que ça vient aussi faire écho à ce qu'on se disait tout à l'heure sur les chiffres, les dispositifs, les EDL hyper experts et savants. Il faut se rappeler que l'humain est d'abord un être sensible et il faut d'autant plus s'en rappeler qu'il y en a d'autres de l'autre côté du spectre. Je pense notamment à l'extrême droite, à la droite et à tous ceux qui développent des logiques populistes qui en ont tout à fait conscience. Et on sait aujourd'hui que pour manipuler les masses, c'est très facile d'aller susciter de l'émoi et ensuite, à partir de là, de surfer là-dessus pour venir servir des récits qui nous arrangent bien, mais qui ne sont pas du tout connectés aux besoins. Mais voilà, c'est ce qui s'appelle l'instrumentalisation des émotions. Et donc, moi, j'en appelle effectivement à revenir, comme tu le disais, à de la proximité pour recréer du dialogue, mais aussi à retrouver du temps pour la délibération, pour l'argumentation, pour finalement remettre en place tous les moyens qui sont nécessaires au développement du libre-arbitre. Et aujourd'hui, avec les médias qui ont des formats hyper courts, les réseaux sociaux où on veut des formats sur Instagram, non, on n'a pas le droit de le dire, des formats sur Instagram,
on peut.
de moins d'une minute, etc.
On cherche le buzz.
Voilà, on cherche, il faut buzzer, il faut avoir le mot qui fait mouche. Et on ne prend pas le temps de se poser, de venir, pareil, décortiquer les ressorts de l'émotion qu'on éprouve, et puis de construire quelque chose, une argumentation, une vision beaucoup plus raisonnée, argumentée. Et c'est ce que je disais, de pouvoir se positionner ensuite dans le monde, mais de façon pas uniquement spontanée et intuitive, de façon complètement argumentée et plus raisonnable. Et moi, j'avoue que je suis inquiète que, alors qu'on le sait, qu'on a quand même eu des épisodes de l'histoire qui nous ont montré à quel point ce ressort-là pouvait être puissant et avoir des conséquences dramatiques, qu'aujourd'hui, on n'en tire aucune leçon et qu'on développe, démultiplie des formats de plus en plus courts, speed, et une logique de pareil performance, compétition, le travail du matin de 8h à 23h le soir, pas de temps libre, c'est le début de la fin.
Camille Pétron, sur le même sujet, même question.
J'ai bu les paroles de ma voisine. Je suis en phase à 2000% sur la question du sensible. C'est vraiment, je pense, en trame de fond de tout ce que j'ai pu évoquer jusqu'à maintenant. Enfin, c'est flagrant aujourd'hui quand on entend les politiques parler. Alors, forcément, pas l'extrême droite, malheureusement, mais quelle place les politiques font aujourd'hui à vraiment écouter les personnes, se prendre du temps avec elles et savoir comment ça se passe dans leur vie, quelles sont les complications, quelles sont les difficultés, mais aussi quelles sont leurs joies. Et moi, je suis très, très attachée à ça. Et créer du sensible, c'est justement ça qui permet à une personne ensuite d'aller adhérer à une idée ou à un collectif, etc. Et en effet, je pense que là, il faut absolument qu'on réinvestisse ces espaces-là. Émile est un territoire pour la fraternité et plutôt chouette là-dedans, puisque finalement, à travers toutes les initiatives qui sont développées dans toute la France, vraiment, on va toucher à l'émotionnel, on va toucher vraiment au domaine du sensible. Il y a des films sur lesquels on peut se retrouver tous à pleurer, à sortir, à avoir la boule au ventre, à avoir des situations qui nous mettent hors de nous, qui nous révoltent. Et c'est justement parce qu'on va travailler sur ce domaine de l'émotionnel qu'on va réussir à retrouver dans le discours l'envie d'être ensemble, l'envie d'agir, l'envie justement d'aller voter, ne serait-ce que d'aller voter, et puis l'envie de voter pour un monde qui soit protecteur des uns et des autres, qui prenne soin des individus, qui prenne soin des espèces vivantes et du naturel, qui prenne soin de notre matière collective, parce qu'on est tous ensemble, quoi.
Écoutez, madame Anne.
Oui, tout à fait. Ce que je voulais vous demander, parce que ça me paraît important, c'est que on voit bien qu'au cours des années passées, au niveau des associations, de manière générale, on leur a demandé, à travers le pacte républicain, à travers un certain nombre de conventions diverses et variées, on leur a demandé de plus en plus de neutralité, on leur a demandé de répondre à des appels à projets, on leur a demandé de, effectivement, avec ces appels de... Ces candidatures à appel à projet donc, puissent être équilibrées financièrement. Enfin, il y a eu toute une évolution. Et surtout, on leur a demandé de ne pas faire de politique. Est-ce que, dans vos actions respectives, vous en tenez compte? Comment ça se traduit? C'est un peu délicat comme question, mais elle est importante parce que c'est vrai que pour les associations, il y a cette épée de Damoclès, qu'elle soit grande ou petite.
Principe Borgne, Paris Collectif.
Alors, j'ai envie de dire non, parce que nous, on part du constat que tout est politique. Donc, ne pas faire de la politique, c'est juste ne plus respirer, parce que même respirer aujourd'hui est politique. Je pense que la préoccupation qu'on a davantage eue, c'est de maintenir une indépendance, par contre, vis-à-vis des organisations partisanes. Ça, effectivement, c'était important, tout en assumant, nous concernant, il y a un positionnement à gauche, on a dû résister aux pressions partisanes pour qui nous demandaient soit d'influer sur l'orientation de l'opinion publique et des gens qu'on recevait, soit de développer, adapter nos structures de gouvernance pour qu'elles soient plus en phase avec eux, leurs enjeux de parti. Donc ça a été un rapport entretenir et tout au long de la démarche. Donc voilà, enfin je vais pas forcément développer beaucoup plus, mais il y a un non-sens et c'est absurde de demander aux associations de ne pas faire de la politique. Encore heureux que la politique reste l'affaire et la chose de tous, quoi.
L'affaire de tous aussi, Camille Pétron, vous êtes d'accord? J'imagine que oui.
Oh que oui, parce que je fais bien la différence entre la politique politicienne, le partisanisme et l'apartisanisme. Et d'ailleurs, c'est arrivé souvent dans des débats qu'on dise « Ah, non, moi je suis apolitique ». Non, bon, t'es pas apolitique en tant qu'acteur associatif, t'es apartisan, d'accord, mais si tu défends le droit des femmes, c'est politique. Donc c'était des débats des fois assez passionnants. Forcément, ça nous traverse. Quand je dis « nous », c'est les 41 organisations signataires de 1001 territoires pour la fraternité. D'autant plus qu'aujourd'hui, on voit énormément d'invectives et de plus en plus de la part d'élus RN, que ce soit dans les exécutifs locaux ou à l'Assemblée nationale, avec des menaces de subvention pour non-respect du contrat d'engagement républicain ou de la neutralité demandée aux associations lorsqu'elles interviennent dans les services publics et notamment de l'éducation. Et donc, voilà, il y a soit même dans les mairies RN déjà, qui ont déjà basculé
au RN. Suppression de locaux, dans exactement. Certains cas, au-delà des subventions, c'est vraiment tout faire pour empêcher l'activité des associations. La LDH en a été victime.
Oui. Oui, exactement, c'est là-dessus que je voulais aller. Donc c'est en effet la LDH, le Secours Populaire, mais même des clubs de foot. Enfin, je ne sais pas à quel moment ça dérange le RN finalement qu'un club de foot existe. Et donc moi j'aimerais par contre qu'on se pose la question de savoir comment le maire d'Hénin-Beaumont a pu repasser au premier tour avec le bilan qu'il y a sur le secteur associatif. C'est un autre sujet. Pour revenir vraiment aux organisations de 1001 territoires, moi je suis un peu dans ma tour dorée en tant que chef de projet national, je coordonne, etc. Les choses, elles se mettent en place sur les territoires. Voilà, moi, je mets de l'huile dans la mécanique, mais finalement, j'ai plein de remontées. C'est ça qui est hyper intéressant, d'écouter le terrain. Et moi, le terrain, moi, j'ai des organisations qui disent on ne veut pas y aller. En fait, on appelle ça aujourd'hui, entre nous, la tentation de faire le dos rond. Avec des vraies inquiétudes, hein. Vraiment, on a des organisations aujourd'hui qui ont les pétoches de s'afficher en tant que signataires de 1001 territoires ou porteurs de projets. Donc, on ne les laisse pas toutes seules. L'idée, là, c'est qu'on puisse... On a créé un groupe de travail qui s'appelle Riposte, où on rappelle les droits et les devoirs des associations. Donc, par exemple, le non-appel à voter pour un candidat, on a le droit d'appeler à voter contre et faire barrage. Mais, enfin, voilà, on accompagne avec des fiches pratiques sur les droits et devoirs, le cadre juridique, et puis, voilà, un kit un peu plus global pour pouvoir accompagner les associations, puisque c'est un vrai sujet.
Fréquence droit sur Aligre FM. On va dans un instant parler du réinvestissement dans les territoires, mais tout de suite après cette pause.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Le choix de Princy Borgne de Paris Collectif, je crois avoir connu cette chanson, cet hymne. Princy, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit de l'hymne des femmes qui a été écrit de façon un peu informelle en 1971 dans un vieil appartement par quelques militantes féministes à l'occasion des commémorations de la Commune. D'ailleurs, on est au lendemain, donc ça tombe bien. Voilà, et j'en profite pour faire une petite dédicace à Rivka Berkovici, à qui j'avais confié récemment écouter cette musique fréquemment et qui m'a livré l'historique de la chanson. Voilà.
Alors,
donc, excuse-moi Claude, juste pour dire que Rivka est adhérente LDH de la section du 20e. On n'est pas peu fiers quand même que tu lui fasses une dédicace, Pensy.
On parlait à l'instant, merci Boudjema, on parlait à l'instant de la nécessité de ne pas baisser les yeux devant les intimidations. C'est aussi un mot d'ordre que vous portez à Paris Collectif
Oui, complètement. Et je voulais parler en plus de la conséquence de ça sur la division de la société civile. Division dans le sens où pas dans le sens où on se fait front, mais où parfois il est compliqué de mutualiser nos forces. Nous, par exemple, notamment dans la perspective, on va en parler, des échéances nationales, on a essayé de se mettre en réseau, et même d'ailleurs à l'échelle parisienne, avec d'autres organisations pour parfois avoir des prises de position publiques communes. Et en fait, même si on se retrouvait tous autour des constats et puis du bon sens du message, parce qu'on a certaines organisations qui craignent pour leurs subventions, les pressions qu'elles peuvent recevoir par la suite, et leur besoin de pouvoir, notamment quand ils sont dans des territoires gouvernés par la droite, leur besoin de pouvoir continuer à maintenir un dialogue avec toutes les forces politiques, on s'est retrouvé parfois à avoir des organisations qui nous disaient « on soutient vraiment, on relaiera de façon discrète, mais on ne peut pas faire poids à vos côtés parce que ça risque de nous coûter ». Et ça, mais quelle merveilleuse stratégie pour ceux qui veulent nous dominer que de diviser la société civile et les forces citoyennes.
Alors, on a beaucoup parlé de ce qui allait être dit tout au long de ces démarches que vous allez porter pendant les mois qui viennent. Parlons des choses sur le plan territorial. Il y a Paris, puis il y a le reste du pays. Et tout ne se fait pas à Paris, Camille Pétron.
Ah non, heureusement. Et du coup, ça permet de vraiment revenir au tout début de nos échanges. Mille et un territoire a vraiment vocation d'être en proximité, de mener cette bataille culturelle, d'occuper non seulement le territoire géographique, mais aussi le territoire cognitif, du coup, occuper un autre narratif partout, et ça en proximité. Donc c'est vraiment au plus près des citoyens sur tous les territoires.
Comment on refait village? C'est un mot que j'ai retrouvé dans la documentation. On en a parlé d'ailleurs déjà tout à l'heure. Concrètement, comment on refait village? Comment on fait village? Ça signifie quoi?
Ça signifie de voir des espaces de rencontre, des lieux de rencontre où les personnes, elles peuvent vraiment en proximité venir rencontrer son voisin, les personnes de son quartier, les associations, les collectifs, militants, les syndicats aussi, de pouvoir avoir un discours social en proximité, de réussir à se retrouver sur des points communs, des passions communes, du sensible commun, des émotions. Ça, c'est vraiment ce à quoi on va s'attacher encore plus demain. Aujourd'hui, Mille et un territoires pour la fraternité est présent donc, sur toute la France. Mais on a le luxe, je dirais, de pouvoir s'appuyer aujourd'hui sur 14 coordinateurs et coordinatrices qui sont vraiment, c'est vraiment les chevilles ouvrières en local sur les départements pour pouvoir relayer la communication, mettre les signataires autour de la table, etc., pour leur dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, quelle action on peut mener, comment est-ce qu'on peut faire village ensemble. Demain, là, au lendemain des municipales, c'est vraiment de pouvoir le déployer sur 33 départements et d'arriver donc jusqu'au présidentiel 3 mois avant à ce que ce soit tout le territoire français, tous les départements qui puissent donc s'appuyer sur un accompagnateur ou une accompagnatrice départementale.
Boudjema Daman.
Oui, on a bien vu les menaces dans le cas de municipalités qui passeraient ou qui resteraient à droite et à l'extrême droite. Il y en a un certain nombre, et ça a été une surprise, qui sont à gauche et qui le resteront, très probablement, et qui peuvent être conquises également à gauche. La question, quand on parlait tout à l'heure, quand Claude posait la question donc de faire village, c'est qu'il y a des expériences qui ont été menées à Poitiers, à l'Île-Saint-Denis. On en a parlé dans les émissions qu'on a organisées, d'assemblées citoyennes, de co-décision avec des élus. justement, pour faire en sorte que les décisions qui seront prises par les, je dirais, prochaines équipes municipales puissent l'être par des gens qui sont directement concernés par les décisions qui seront prises. Comment vous vous positionnez par rapport à ces expériences qui sont menées? Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous souhaitez? Ou est-ce que, voilà, il y a d'un côté les politiques et de l'autre côté la société civile et les citoyens? Camille, et puis ensuite, Princy, et ensuite Camille.
Déjà, c'est très beau et ça donne espoir de voir toutes ces initiatives, effectivement, qui foisonnent. Après, il y a des choses dans lesquelles nous, on se retrouve, d'autres dans lesquelles on se retrouve moins. Par exemple, si le but n'est que de permettre à des citoyens de devenir élus, notre sensation, c'est que c'est pas suffisant, c'est pas une fin en soi, parce qu'une fois élu, qu'est-ce qui nous garantit qu'on va pas retomber dans les mêmes mécanismes d'exercice du pouvoir? Donc nous, on en appelle à un travail beaucoup plus global sur la démocratie et la citoyenneté. Premièrement, il y a un besoin impératif de revaloriser le statut de citoyen pour permettre à toutes et à tous de prendre part à la vie politique. Revaloriser le statut de citoyen, ça veut dire permettre, par exemple, d'indemniser les personnes qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour prendre part à des temps de délibération. Ça veut dire mettre en place des moyens de garderie pour les parents qui sont isolés, seuls et qui n'ont pas de solution de garde quand ils veulent aller à un temps de rassemblement, de mobilisation. Enfin voilà. Donc il y a quelque chose vraiment à travailler, institutionnaliser autour du statut citoyen. J'espère que la volonté politique sera là. Et puis, plus globalement, je crois qu'il faut qu'on se dise que pour tous les militants et tous les habitants qui veulent un changement culturel et politique, le combat, on le sait, je crois qu'il faut qu'on l'intègre, ne va pas se remporter à coup de déclarations choc ou de postures. On a besoin de déployer une méthode. Et c'est pour ça que nous, à Paris Collectif, depuis le début, on travaille en lien avec d'autres collectivités, d'autres surtout mouvements citoyens, parce qu'on se dit qu'il faut qu'on puisse vraiment développer ces pratiques qui permettent aux habitants de penser l'avenir de leur territoire, leur avenir aussi en tant que membre d'une collectivité. Et donc voilà, sur le court moyen terme, on espère pouvoir faire ça, diffuser, développer la méthode qu'on a mise en place à Paris à l'échelle nationale. Ouais.
Camille Pétron, Mille et un territoires.
Oui, alors j'ai envie tout de suite de rebondir sur les propos de Princy en disant que Mille et un territoires, c'est peut-être l'étape d'avant, parce que l'éducation populaire ou toutes les initiatives qui sont menées dans le cadre de Mille et un territoires, elles ont justement vocation à redonner l'envie d'agir, réenchanter l'intérêt pour les politiques, la politique. Mais nous, en aucun cas, par contre, on a un rôle partisan dans ça. On n'a pas vocation, par exemple, à faire en sorte qu'il y ait des listes qui se créent pour les élections municipales. D'ailleurs, Paris Collectif avait fait une demande de labellisation. On avait eu ce débat entre nous. Donc voilà, nous, par contre, former le citoyen pour qu'il ait envie d'agir, pour qu'il s'y intéresse, etc. Ça, en tout cas, c'est vraiment le propre même de Mille et un territoires pour la fraternité. Et ensuite, qu'il agisse et qu'il agisse bien. Et donc ensuite, qu'il puisse aller sur des assemblées citoyennes comme ça. Enfin, et je finirai là-dessus très rapidement. Je suis quand même très atterrée de voir que finalement, ça va être un second tour des métropoles et des grandes villes, quoi. Hein, et ça, justement, dans cette notion Absolument. De refaire village, de redonner corps à la politique, etc., même en proximité, c'est bien ça. Enfin, c'est quand même hallucinant quand même que dans la majorité de la France rurale, il n'y ait qu'un tour, quoi.
C'est parce que juste précise d'ailleurs que Paris Collectif n'a pas présenté de candidat au municipal. Ouais.
C'est presque la fin de cette émission. En quelques secondes, peut-être peut-on parler de 2027. Vous êtes en ordre de bataille déjà pour cette échéance qui est un peu la mère des élections, Princy Borgne. 2027, l'année présidentielle.
Oui, 2027. Et écoutez, il va falloir déjà qu'on puisse poursuivre la mobilisation. On a été heureux de voir que la séquence là, qui vient de s'écouler a permis à notre organisation de converger avec d'autres organisations. Donc d'ici 2027, et en fonction des résultats qui vont tomber là à Paris, on va voir comment on prend le combat. Est-ce qu'il va s'agir de faire front sur le champ des valeurs et de suivre la mandature si elle est de droite pour contrôler, dénoncer, surveiller strictement. Ou est-ce que, en plus de ça, on va pouvoir se donner les moyens justement d'aller mobiliser, sensibiliser les citoyens sur l'importance de prendre part à la vie politique, pas seulement en tant que votant, mais en tant que façonneur, architecte du projet politique de leur territoire.
Voilà. 2027, Camille Pétron.
Alors oui, nous, on attaque vraiment les grands chantiers. J'ai envie de dire, l'épisode des municipales, on l'a regardé énormément. Ça va nous servir de laboratoire. On a vraiment envie de rebondir. Donc tout à l'heure, je parlais du déploiement sur encore plus de départements pour qu'on ait vraiment des relais locaux. Hein, parce que c'est, si on était qu'un espèce d'ovni parisien, on aurait du mal à s'intégrer, à faire corps sur les territoires. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer très, très clairement en deux points? Le premier point, c'est la mise en place de 4 formats d'initiatives vraiment maquettés par et pour Mille et un territoires. J'ai évoqué tout à l'heure les soupes solidaires. Là, on va en tout cas développer davantage sur les territoires des rendez-vous sur l'espace public avec comme support la convivialité pour pouvoir ensuite aller aborder des sujets de société à travers des outils ludiques, interactifs, etc. Donc ça peut être des apéros géants, des soupes solidaires toujours, etc. On va aussi mettre en place du coup des grandes tablées fraternelles. Vous n'êtes pas sans savoir que Pierre-Édouard Sterrin finance le Canon français et le label Les plus belles fêtes de France. Donc cette récupération du
patrimoine. Pierre-Édouard Sterrin, il faut rappeler qui c'est.
Pierre-Édouard Sterrin, du coup, c'est un identitaire d'extrême droite ultra-catholique et qui a la chance, malheureusement, d'être, à défaut d'avoir des idées humanistes, a beaucoup d'argent. Et donc, il finance tout un écosystème associatif et donc festif et culturel qui lui permet à lui de mener sa propre bataille culturelle. Hein. Donc, il finance ces fêtes-là et en fait, il récupère à travers ces fêtes-là, les canons français notamment, ce qui fait notre identité française, ce qui fait notre fierté française. Hein. D'ailleurs, du patrimoine gastronomique comme le patrimoine dans les monuments.
Une identité française totalement fantasmée quand même, Camille, hein, comme tu le disais, parce que c'est vraiment sur des bases d'extrême droite très identitaires. Hein,
Ah ouais, exactement. Et donc du coup, non seulement nous, on doit se dire qu'on refuse cette récupération de ce qui fait aujourd'hui les fiertés françaises. Un Destin commun a fait une très belle étude à ce sujet-là. Le patrimoine français, c'est encore un bien commun. Je suis désolée, il faut que j'aille vite, mais ça me passionne. Et donc du coup, nous, on a envie de mettre en place des grandes tablées fraternelles pour dire que si on est capable de manger ensemble, on est capable de vivre ensemble, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va continuer les projections citoyennes et on va aussi s'implanter dans les festivals, voilà, de manière à pouvoir aller s'adresser aux jeunes qui n'ont rien demandé, avec des guillemets, bien entendu. Et donc du coup, parmi ces événements-là, et promis, j'ai fini, pendant ces événements-là, on va recruter des citoyens et des citoyennes qui ont envie de se mobiliser pour mener avec nous cette bataille culturelle. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir tout de suite les accompagner sur des webinaires organisés donc avec nos partenaires, que ce soit la LDH, que ce soit la CGT, mais je pense aussi par exemple à Street Press ou autre, voilà, avec des intellectuels, des petites conférences gratuites, des kits pratiques, des kits de conversation pour pouvoir aller converser avec des électeurs du RN, etc. Et ensuite, de pouvoir eux aussi mettre en place des événements autour d'eux et donc d'avoir une demain 1001 bâtisseurs et bâtisseuses de fraternité juste avant les présidentielles pour influer les élections.
Camille Pétron, chef de projet à 1001 territoires et Prince Iborgne, Paris Collectif, était notre invité pour cette quatrième émission spéciale municipale. Mais le dernier mot revient comme chaque mois à Yannick Alvarez, la présidente de la section 10-11 de la Ligue des droits de l'homme. Yannick, c'est à vous.
Bonjour Claude, bonjour à toutes et tous. Les élections municipales, comme toute période électorale, sont l'occasion de faire barrage aux idées d'exclusion et de discrimination qui risquent de porter atteinte à nos droits et libertés. Et malheureusement, ces idées ne sont pas l'apanage de l'extrême droite. C'est donc l'occasion de choisir ou d'éliminer les politiques les plus nocives qui concernent l'accès aux services publics. Aux services publics de santé, par exemple, sur la question des maisons de santé, des centres de soins. L'accueil des personnes en difficulté et des personnes étrangères, c'est-à-dire l'action sociale de la commune. La promotion de la culture et de la vie associative. Les médiathèques, l'aide aux associations. La qualité des activités périscolaires et de la restauration scolaire. L'accès au logement, l'attribution des logements sociaux. L'environnement, la gestion des espaces verts, des déchets, etc. Mais, de plus, les élections municipales jouent un rôle décisif dans la représentation sénatoriale, car ce sont les élus locaux qui sont les grands électeurs pour la composition du Sénat. Il faut donc éviter que les idées d'extrême droite se renforcent également au Sénat. C'est l'occasion d'en appeler à l'union contre l'extrême droite et de faire vivre cette union par le bas, par les citoyens. Et puis c'est l'occasion de lutter contre la fascisation des esprits. La démocratie représentative est en crise et elle laisse place à une grande vague autoritaire mondiale. Il faut trouver les moyens de s'y opposer et il faut rappeler que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Il faut répondre à celles et ceux qui pensent à tort que la défense des droits humains et la défense de l'état de droit ne les concernent pas, ne marchent pas pour eux, ne les aident pas dans leurs difficultés quotidiennes. Il est encore temps de s'emparer des élections locales pour débattre et réinventer la démocratie représentative, qui n'est justement pas réductible à l'élection. Il est encore temps de pousser l'unité des partis politiques qui s'opposent à cette dérive autoritaire, même s'ils ne sont pas d'accord sur les moyens d'y parvenir. Merci.
Merci. Merci à Yannick Alvarez, présidente de la section 10-11 de la Ligue des droits de l'homme. Merci aussi à Didier, qui était à la technique aujourd'hui. Merci à Laurence Sabiri-Séban, Marc Savino et Bruno Guironnet qui ont contribué à cette émission. Bouzgema Daman, merci.
Merci Claude Cyril qui était à l'animation de cette émission.
Et à la prochaine fois. À tous, merci de votre attention. Rendez-vous le mois prochain, mais peut-être avant.
Tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique, Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs. Ouais, méfie-toi des apparences. Basique, basique, simple, simple. Basique, basique, simple. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.